Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 8 de la série concernant la guérison. Le titre d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'exorcisme et prière de délivrance. En évoquant le rôle joué par le tentateur et en dévoilant progressivement le mystérieux dessein de salut que Dieu accomplit par étapes dans l'histoire des hommes, en contemplant avec saint Paul cette mystérieuse solidarité qui unit tous les hommes entre eux dans le péché, et cela comme dans la grâce, alors la révélation nous achemine par étapes vers la contemplation centrale du mystère de la croix et de la résurrection. En Jésus-Christ crucifié, si nous reconnaissons dans la foi ce qu'il est en vérité, c'est-à-dire le Fils de Dieu lui-même venu dans la chair et qui a épousé notre condition souffrante et mortelle, et qui a donné sa vie pour nous, les pécheurs perdus, en toute liberté, eh bien nous pouvons contempler l'amour suprême dont Dieu nous aime et nous sommes invités à lui faire confiance. En Jésus-Christ ressuscité, nous pouvons contempler la puissance du Dieu capable, capable pour nous de vaincre non seulement le mauvais, mais la mort elle-même. Et nous sommes là aussi invités à lui donner notre foi. Plus encore, nous sommes invités, voyez-vous, même si nous ne comprenons pas encore aujourd'hui, à accorder notre foi à la sagesse mystérieuse que Dieu nous laisse entrevoir et à l'adorer. Ça, c'est l'invitation que Dieu adresse finalement à Job avant de le restaurer dans tous ses biens. Notez Job chapitre 38 verset 42. Car en effet, sauver l'homme de son péché et de ses conséquences, merci au Saint-Esprit, c'est-à-dire le réintroduire dans la communion d'amour, de vie et de joie plénière à laquelle il était appelé. Cela ne pouvait se faire sans que l'homme y consentît, au moins en sa liberté, car sans liberté, il n'y a pas d'amour, et c'est précisément cette liberté de l'homme pécheur qui se dérobe, et il n'y a pas de solution humaine à cette véritable, on peut dire, quadrature du cercle. Mais il y a seulement la prodigieuse invention de la sagesse et de l'amour divin. Oui, l'amour crucifié qui nous interpelle en nous disant « Vois comme je t'aime !» Oui, comment ne pas aimer en retour celui qui nous aime tellement ? Je répète, l'amour divin, l'amour crucifié qui nous interpelle en nous disant « Vois comme je t'aime !» Oui, comment ne peux-tu pas aimer en retour celui qui nous aime tellement ? Et saint François d'Assise parcoura les campagnes en clamant le scandale des scandales, c'est-à-dire l'amour n'est pas aimé. Oui, Dieu n'est pas aimé. Quel aimant existe-t-il aux deux sens du terme qui est plus puissant à inventer, je vous le demande? Mais cet aimant suscite une réponse d'amour et de liberté. suscite une véritable conversion du cœur et de tout l'être. À moins que le pécheur ne s'endurcisse plus encore dans son péché et dans son refus. Mais il lui faut pour cela détourner radicalement son regard de ce regard qui l'appelle et qui pourrait rejeter sur Dieu la responsabilité d'un tel endurcissement. C'est pour ça, je répète là quelque chose qui est important. Voyez-vous, par exemple, j'ai dit qu'en effet, pour sauver l'homme de son péché et de ses conséquences, c'est-à-dire pour le réintroduire dans la communion d'amour, dans la communion de vie et de joie plénière à laquelle il était appelé, cela ne pouvait se faire sans que l'homme y consentît, au moins en sa liberté, car sans liberté, il n'y a pas d'amour aussi bien à la justice de Dieu que à l'amour de Dieu. Voyez-vous ? Le péché de l'homme n'est encore qu'un péché d'enfant, un péché de faiblesse que Dieu vient pour pardonner. Comme le père du fils prodigue, Dieu attend, appelle, restaure et guérit ce fils infidèle. Moi je l'étais également, qui s'est laissé séduire. Le vrai responsable, c'est Satan, c'est le tentateur, c'est l'accusateur, c'est le grand révolté, c'est celui qui, dans la perfection de son intelligence et la perversion de sa liberté, se dresse contre Dieu, quelles que soient les raisons que les théologiens ont imaginées à son péché. L'insoluble problème du mal, c'est finalement au niveau de Satan qu'il se pose en toute son acuité. Je répète, l'insoluble problème du mal, c'est finalement au niveau de l'ennemi de Satan qu'il se pose en toute son acuité. Donc le mystère de Dieu, c'est celui d'une lumière qui m'éblouit, car mes yeux et mon intelligence, qui ne s'exercent que à partir des données fournies à elles par les organes de nos sens, ne sont pas faits pour regarder en face le soleil de Dieu. Et je comprends pourquoi je ne peux pas encore comprendre, mais le mystère d'iniquité, ça c'est un mystère de ténèbres, c'est le mystère d'une liberté qui s'est délibérément détournée de la lumière de Dieu. Je répète, le mystère, c'est donc le mystère d'une liberté qui s'est délibérément détournée de la lumière de Dieu. Alors comment pourrais-je voir et comment pourrais-je comprendre ce qui est ténèbres ? En définitive, dans le mystère de la foi, nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes pour nous arracher à la mort éternelle. Le rôle de Satan, c'est essentiellement pour nous permettre de comprendre comment le mal s'est introduit dans le monde et nous permettre d'avancer autant qu'il est possible dans la compréhension de ce mystère. On pourrait dire que c'est l'hypothèse d'explication grâce à laquelle nous évitons le scandale de ce Dieu bon qui permet la souffrance des petits-enfants innocents. C'est en tout cas celle qu'adopte Jésus-Christ quand il engage son combat victorieux non contre un mal anonyme ou contre les hommes pécheurs, mais contre l'adversaire de Dieu et des hommes. Je répète, écoutez bien, c'est en tout cas celle qu'adopte Jésus-Christ quand il engage son combat victorieux, non pas contre un mal qui serait anonyme ou contre les hommes pécheurs, mais contre l'adversaire de Dieu et des hommes, à celui qui la récuse d'en proposer une meilleure. Le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Après avoir évoqué le mystère pascal de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et le don de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, le catéchisme pour adultes décrit en un chapitre remarquable intitulé « Jésus le Sauveur »« Jesus the Savior » il y a là les multiples façons dont l'œuvre de Jésus-Christ en faveur des hommes a été présentée dans l'Écriture sainte. Chacun des auditeurs des courants théologiques au long de l'histoire a eu en effet sa manière propre, son vocabulaire et sa problématique pour aborder ce thème central du mystère chrétien. Aucune de ces approches ne se suffit à elle-même. Elles sont toutes complémentaires. Chacune apporte son éclairage et comporte ses limites et ses dangers si l'on s'y enfermait. Donc, l'approche première par le mystère pascal de Jésus-Christ est sans doute la plus fondamentale et la plus éclairante. Elle a l'avantage d'un solide enracinement dans la tradition juive et de constituer le cœur même de la liturgie de l'Église. Elle centre tout sur la personne du Christ, sur la victoire de la vie sur la mort, de la liberté sur l'esclavage, et manifeste bien l'action de l'Esprit Saint qui répand en l'homme restauré toute la vie même de Dieu. Mais il faut bien reconnaître que si elle a soulevé à juste titre l'enthousiasme des clercs et de tous ceux qui se nourrissent de la Sainte Bible, elle nous fait entrer dans un monde totalement étranger à la culture contemporaine et exige du chrétien moyen un nécessaire mais colossal effort de culture biblique. Rejoignons un vocabulaire plus accessible aux hommes d'aujourd'hui. Il s'interroge. L'homme a-t-il donc besoin d'être sauvé? L'homme d'aujourd'hui en a-t-il encore besoin? Mais sauvé de quoi? Se pose-t-il encore de telles questions? Certains, en tout cas, se la posent, heureusement. Malgré cet obstacle de fond, une telle approche apparaît à juste titre la meilleure, car une fois que l'on a bien précisé ce que l'on met sous ce terme de salut, la délivrance de tout mal, retour à la santé, libération de la servitude et le don de la vie, oui, la vie, une vie éternelle qui allaiterait du royaume que Jésus-Christ est venu instaurer, et cela d'une vie dans l'amour, dans la justice et dans la paix. Car voyez-vous, il faut bien avouer que toutes les autres approches sont encore plus éloignées de la mentalité contemporaine et susceptibles d'interprétations dangereuses telles que la rédemption, la libération, la divinisation, la justification, le sacrifice, l'expiation, la réparation et la satisfaction. Elles exigent toutes de longues explications pour leur permettre d'être, sinon d'être acceptées, du moins être comprises sans trop de contresens. Donc une seule approche est passée sous silence, c'est celle qui évoquerait la victoire du Christ sur Satan et les esprits mauvais. Elle est pourtant aussi biblique, sinon plus, et traditionnelle que les autres, plus en tout cas que celle de réparation et de satisfaction. Mais elle suscite effectivement chez beaucoup le profond malaise que l'on a évoqué. Elle comporte ses limites et ses dangers comme tous les autres, mais aussi bien elle comprend et comporte des avantages, car tout le monde sait, sans qu'il soit besoin de longues explications, ce que est le mal sous toutes ses formes et dans son origine première, c'est-à-dire le mauvais. Et le mauvais, tout le monde se rend compte que nous vivons dans un monde conflictuel où nous sommes confrontés à toutes sortes de combats devant lesquels nous nous trouvons si souvent démunis, et tous aspirent à une victoire décisive sur le mensonge. La violence et la haine, la souffrance et la mort, et tous peuvent aisément comprendre que cette victoire ne peut être que celle de l'amour, et donc de quelqu'un qui aime plus fortement qu'aucun de nous ne pourrait jamais le faire. Et tous peuvent aisément comprendre que si la victoire du Christ est si radicale, c'est qu'elle s'attaque au mal en sa racine qui est le mauvais, c'est-à-dire Satan. Chers amis, quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église, elle a sa source en Dieu, elle prolonge la mission que le Fils a reçue du Père de réconcilier le monde avec lui, une mission de sanctification et de communion qui s'accomplit dans l'Esprit Saint qui est envoyé par le Père et le Fils. Alléluia. Citons les dernières paroles de Jésus-Christ avant l'Ascension, telles que les rapporte l'Évangile Saint Matthieu au chapitre 28, versets 18 à 20. Pensons en bien tout cela et pesons ces mots, ces termes que Jésus-Christ a dit. Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Je répète, Jésus-Christ a dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Il y a la mission qu'il a reçu du Père et les pouvoirs nécessaires à son accomplissement. ces pouvoirs n'ont pas à s'exercer seulement sur la terre, mais aussi au ciel, c'est-à-dire dans l'univers visible et invisible. L'apôtre Paul précise au sujet de la primauté du Christ qu'il est le premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les seigneuries, les principautés, les puissances, tout a été par lui et pour lui. Notez Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 17. Il ajoute même, en parlant de la résurrection et de son avènement à la fin des temps, « Puis ce sera, dit-il, la fin, quand il, Jésus-Christ, le Messie, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, toute domination et puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort. » 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 26. C'est sans ambiguïté l'évocation du combat spirituel et de la victoire du Christ sur les adversaires invisibles et le fruit vénéneux de leur action en ce monde qui est la mort. Allez donc, a-t-il dit, et annoncez la bonne nouvelle du salut. Gloire à Dieu. C'est la mission de l'Église qui prolonge dans l'histoire l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et elle s'est transmise par lui, uniquement par lui, à ses apôtres, ses disciples. Il a dit, « Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Johannes, Saint Jean, chapitre 17, verset 18. C'est en ce sens que l'Église est apostolique. Oui, de toutes les nations, faites des disciples. Ce que l'on traduit souvent par « enseigner toutes les nations », c'est l'œuvre jamais achevée jusqu'à la fin des temps de l'évangélisation. Proclamer et expliquer inlassablement la sainte parole. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ou simplement, baptisez-les tous dans le saint nom de Jésus-Christ. Et c'est à travers le baptême, c'est là toute la mission sacramentelle de l'Église qui consiste à introduire la multitude des croyants dans le ministère du Christ qui est mort, mais qui est surtout ressuscité. Gloire à Dieu. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. C'est important. C'est toute la responsabilité pastorale de l'Église qui veille sur le troupeau que lui a confié le bon pasteur. Et ce n'est pas une œuvre de tout repos, comme saint Paul l'a constaté. Deuxième épître de Corinthe, chapitre 11, versets 23 à 29, ainsi que le chapitre 12, toujours de deuxième épître de Corinthiens, chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 10. Après le Christ lui-même, qui évoque le surgissement du voleur et du loup, et vous savez de qui on veut parler, notez Saint Jean, chapitre 10, verset 10 à 12, que le bon pasteur affronte et qu'il repousse victorieusement. Oui, ayez confiance, car j'ai vaincu le monde. Saint Jean, chapitre 16, verset 33. Père Saint, garde-les du mauvais, garde-les du malin, de l'ennemi des âmes. Saint Jean, chapitre 17, verset 15. Et moi, Jésus-Christ, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le statut de l'apôtre qui est envoyé au nom de quelqu'un qui a agi à travers lui. C'est le statut de l'Église qui n'accomplit sa mission que par le Christ avec lui et en lui, et ceci jusqu'à la fin du monde. Après le temps du Verbe incarné, voici le temps de l'Église qui n'est autre que Jésus-Christ répandu et communiqué dans tous les aspects de sa mission, y compris le combat victorieux contre l'adversaire. Pardon, j'ai hélas le rhume. Chers amis, cette finale de Saint Matthieu, Johannes et Matthäus, et elle est beaucoup plus ecclésiastique qu'on pense, et elle ne saurait être séparée de celle de Saint Marcos, qui est plus populaire et qui s'adresse, voyez-vous, à tous les croyants, oui, vous l'avez entendu, aussi bien à toi qu'à moi, et qui souligne les deux signes qui accompagnent la prédication de l'Évangile. Les démons seront chassés et les malades seront guéris. Comme toujours, les textes de la Sainte Parole de Dieu sont à prendre ensemble dans leur complémentarité. Chers amis, voyez-vous, malheureusement, la démonologie pose aujourd'hui à l'Église une double série de questions qui ne sauraient être éludées plus longtemps. La première s'adresse aux théologiens et aux magistères de l'Église qui sont chargés de vérifier la cohérence entre les recherches de ceux-ci et la foi de l'Église. Une question sérieuse. L'existence de Satan fait-elle partie du contenu de la révélation? La Congrégation pour la doctrine de la foi répond clairement oui. Elle répond oui face... Pardon. J'ai dit, elle répond donc oui face aux contestations d'un certain nombre de penseurs et même un certain nombre de théologiens influencés par le rationalisme de la pensée contemporaine et en particulier des sciences humaines, l'humanisme. Où et comment reconnaître l'action de Satan dans le monde d'aujourd'hui, je vous le demande. Quels critères de discernement avancer face aux hypothèses réductrices de la plupart des psychologues? dans la crise spirituelle qui secoue aujourd'hui l'humanité, les fidèles chrétiens et la multitude des hommes vont-ils rester longtemps privés d'une forte parole d'Église, seule capable de leur révéler la nature exacte et les dangers de la montée actuelle de l'ésotérisme, de l'occultisme et du satanisme, et inclut dans tout cela une sexualité anormale. La multitude de ceux qui sont ou se croient victimes des ruses et des violences de Satan vont-ils longtemps encore se trouver abandonnés ou rejetés par l'Église et condamnés faute d'exorcistes assez convaincus et assez nombreux pour se tourner vers les sectes, vers les exorcistes sauvages ou vers les désenvoûteurs professionnels? Quand pourront-ils enfin recevoir une autre réponse qu'un sourire condescendant ou un haussement d'épaule totalement impuissant de plus ou moins, entre guillemets, de sages conseils spirituels qu'ils ne peuvent jamais appliquer? Quand pourront-ils enfin rencontrer une vraie compassion qui accueille avec sérieux leur souffrance? La remise en valeur d'une véritable spiritualité et d'une pastorale du combat spirituel, de la prière de délivrance, il ne faut pas avoir peur d'intercéder, et de l'exorcisme qui s'impose de toute urgence. Voyez-vous, face à ces questions actuelles, eh bien, il y a deux dangers qui sont opposés et qui guettent l'Église aujourd'hui. Écoutez bien, c'est de minimiser le problème et de faire comme si Satan et les esprits mauvais n'existaient absolument pas, ou du moins n'étaient pas à l'œuvre du tout aujourd'hui. Ils sont endormis dans un coin. Méfiez-vous, ils peuvent aussi être endormis dans un coin de l'Église. La première ruse de Satan, c'est de se faire oublier afin de pouvoir agir en toute tranquillité, ou d'accorder trop de pouvoir à l'adversaire, ça aussi c'est une erreur, et ne voir que lui partout, en oubliant que l'essentiel, c'est évidemment Dieu et son dessein d'amour, son dessein de vie, et que Satan n'est finalement qu'un vaincu qui se trouve en sursis. Satan est puissant et il faut le combattre, mais Dieu est le seul qui est tout puissant. Alléluia. Ayez confiance, car j'ai vaincu le monde. Chers auditeurs et auditrices, vous me demandez que faut-il croire de nos jours? Oh là là! Vous me demandez pourquoi croire en Christ plutôt qu'en Confucius ou en Bouddha ou en Mahomet, ou plutôt que dans la philosophie de Sartre ou de Camus, ou plutôt, pourquoi pas, en rien du tout. Ça, c'est encore plus facile. Prenons tout le problème à zéro, et si vous le voulez bien, écoutez bien. Je pars d'un fait que vous m'accorderez facilement notre existence. Pas besoin d'être Descartes pour constater que nous sommes là, sur cette terre. Mais notre existence au sein d'un monde parfaitement adapté à la vie pose le problème de l'origine de tout cela. Né comme ça par hasard, allons donc. Autant dire qu'en vidant par terre un sac qui est rempli de caractères d'imprimerie, on a découvert que par hasard, cela avait composé une tragédie en 3 actes. Regardez votre main. Pensez au fonctionnement de votre œil, de votre oreille, et vous serez obligé d'avouer que seul un être pensant supérieurement intelligent a pu faire des choses si merveilleuses. Cet être existant avant toute chose, qui a créé toute chose, nous l'appelons Dieu. Et c'est encore le nom le plus honnête que nous puissions lui donner. Tout ce qu'on a pu inventer d'autre, la nature, l'être suprême, que sais-je, cache mal l'aveu que tout homme intelligent est obligé de reconnaître l'existence de Dieu. Or, puisqu'il y a un Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, il nous faut bien admettre aussi qu'il n'a pas créé tout cela sans une raison précise et, on peut aussi dire, sans un but précis. Il n'y avait pas un sans but, mais vraiment un but. S'il a agencé ce monde de telle manière que l'homme puisse s'y développer, et il faut bien convenir que c'est l'homme qui semble être la raison et le but de ce monde où nous vivons, c'est qu'il avait un plan pour cette humanité. Chers amis, la Bible nous dit que Christ est ressuscité des morts. C'est une affirmation tellement forte que je ne suis pas obligé de la croire sans preuve. Mais si on pouvait me prouver qu'il est véritablement ressuscité, je serais bien obligé de croire qu'il était le Fils de Dieu et que ses paroles sont dignes d'attention et de crédit. Et comme il dit que de notre foi en lui dépend toute notre éternité. Cela vaut bien la peine de réfléchir sérieusement à ce problème et de la résurrection et d'aller jusqu'au bout de toutes les avenues qui s'offrent à notre pensée pour expliquer, par exemple, le tombeau vide. Eh bien, voyez-vous, le matin de Pâques, ce caveau était vide. La preuve, c'est que personne n'aurait cru ces apôtres qui annonçaient la résurrection de Christ si le tombeau renfermait toujours son cadavre. S'il avait été parmi eux et les Juifs auxquels cette prédication ne faisait pas du tout plaisir, ne se serait pas fait faute d'organiser un jour un grand rassemblement dans le jardin de Joseph d'Arimathée. Et là, devant des milliers de témoins, ils auraient décelé la pierre, et ils auraient exhumé le corps du prétendu ressuscité pour confondre publiquement tous ces menteurs. Mais au lieu de cela, ils ont colporté la fable que les disciples étaient venus de nuit pour ravir le corps et de le cacher à un lieu inconnu pour pouvoir annoncer qu'il était ressuscité. Allons donc. Aïe, aïe, aïe. Pouvons-nous supposer que les Juifs influents comme Nicodème, comme Joseph d'Arimathée, Menahem, Sergius, Paulus, qui faisaient partie de la classe dirigeante et qui avaient la possibilité de vérifier tous les faits, seraient plus tard devenus des chrétiens fervents si toute la prédication des apôtres n'avait reposé que sur une supercherie? Que l'apôtre Paul, qui était un pharisien zélé, c'était quand même un docteur de la loi, il était le membre du Sanhédrin, soit devenu, lui, l'apôtre un des meilleurs de Jésus-Christ. Si ce Jésus n'avait été qu'un menteur, servi par des faussaires, jamais, jamais de la vie. Il a fallu pour les convaincre que Christ leur apparaisse plusieurs fois et même qu'il leur parle, qu'il agisse, qu'il mange devant eux, avec eux, et qu'il leur permette de le toucher, de mettre leurs doigts dans la marque des clous de ses mains et dans le trou de la lance dans son côté. Et tout cela ne serait que des hallucinations. Voyons, vous voulez vous moquer de Dieu. Les 500 personnes qui, au bout de 40 jours, séparent Pâques de l'Ascension, tous l'ont vu et entendu, ne seraient-elles que des malades mentaux pour enfermer dans un asile psychiatrique? C'est quand même des curieux malades qui, après leur hallucination, auraient trouvé un courage qu'on ne leur connaissait absolument pas pour annoncer à travers le monde entier un mensonge. Un mensonge qui a sauvé, qui a guéri, qui a transformé des milliers de personnes qui aujourd'hui encore changent des loques humaines en chrétiens, des drogués qui se shootent, des buveurs qui tombent presque raides morts par terre. Non, 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 c'est sérieux. Heureusement que le Seigneur nous donne quelque chose de consistant et de réel et non pas de virtuel. Jésus-Christ est une réalité et il relève les buveurs, il relève les débauchés, il relève même des criminels. Il restaure des foyers et il rétablit la paix et libère les consciences et donne aux mourants, même aux mourants, la force de passer paisiblement dans l'éternité. Non, 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 un mensonge n'a pas de telles merveilleuses vertus. La vérité, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Disons ensemble, Alléluia, gloire à Dieu. Il est réellement ressuscité. Et voilà pourquoi la foi chrétienne a cette puissance vivifiante et régénératrice. Si vous hésitez encore, chers amis, étudiez le problème, lisez les documents que nous ont laissé les apôtres, pourquoi ne pas simplement lire l'évangile de Saint Jean ? J'étais tellement bête que j'ai dû le lire 3 fois pour comprendre que j'étais perdu pour l'éternité. Ma femme, beaucoup plus intelligente, l'a lu 1 fois et l'a tout compris. Mais je vous le demande, ne mettez pas la question de côté sans être arrivé à une conclusion ferme et surtout une conclusion personnelle qui deviendra pour vous une réalité. Nous allons terminer simplement par la prière. Mais je voudrais vous dire, souvenez-vous que la victoire, elle se trouve dans le sang de l'agneau. Une jeune femme très malade, nous allons l'appeler Anna, elle dit, j'aimerais une prière sur le sang de Jésus, une prière que je pourrais toujours présenter devant Dieu. La victoire est dans le sang de l'agneau. Je suis si faible de caractère. J'ai besoin du sang de l'agneau contre les assauts de l'ennemi et de mon péché. Ou si j'ai satisfait sa demande avec joie. Son visage rayonna. Elle avait un visage qui était très beau. Lorsque je lui tendis la feuille où j'avais écrit cette prière sur le sang de Jésus, elle s'éloigna en la serrant contre elle comme un précieux trésor. Et voici cette prière pour Anna. Cette prière peut être maintenant, à ce moment même, votre prière. Prions. Seigneur, je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon corps, qui guérit les faiblesses de mon âme et qui guérit les faiblesses de mon esprit. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner, dans sa puissance de purifier, dans sa puissance de délivrer, dans sa puissance victorieuse, dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles, dans sa puissance de protéger. Rien n'est impossible à celui qui croit en la puissance du sang de Jésus-Christ. Oui, je loue le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui couvre tous mes péchés de sorte qu'on ne les voit plus. Qui me purifie de tous mes péchés de sorte que je suis blanche comme la neige. Dans lequel est la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes du péché, qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu, qui a la victoire sur toutes les puissances, qui m'opprime ces puissances et qui a la puissance sur toute attaque de l'ennemi, qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et qui me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Chers amis, continuez de prier ainsi. Continuez de prier aussi pour ceux qui sont malades dans vos familles et autour de vous. Amen. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Que le Seigneur vous bénisse richement. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis. N'oubliez pas que le Seigneur vous aime. Il vous aime tel que vous êtes. Oh oui, croyez-le. À bientôt. Au revoir.